remettre en mémoire ce récit que l'on appelle le récit de l'annonce à Marie ou de l'annonciation. Je préférerais, vous allez voir pourquoi, parler d'un récit de vocation. C'est un récit que nous trouvons donc dans l'évangile de Luc. Alors nous allons le lire ensemble à la manière des anciens, c'est-à-dire moi avec ma bouche et vous avec vos oreilles. Le sixième mois, c'est-à-dire après la naissance de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous sommes 6 mois après l'annonce à Zacharie. Je précise que j'utilise la traduction liturgique qui est assez familière à la plupart d'entre nous. Alors dans l'évangile de Luc, cette annonce à Marie, qui prélude à la naissance de Jésus, il faut la mettre en parallèle avec une autre annonce qui la précède immédiatement, une annonce à un prêtre, Zacharie, qui quant à elle est relative à la naissance de Jean le Baptiste. Et dans les deux cas, nous trouvons un ange de Dieu, Gabriel, qui vient d'annoncer la naissance inattendue d'un enfant providentiel. Luc utilise un procédé littéraire bien identifiable, cette comparaison systématique entre deux personnages, bien connus des historiens du monde antique, gréco-romain, et qui est destiné la plupart du temps à mettre en valeur l'un des deux, dont on montre la supériorité un peu systématique sur celui à qui il est comparé. Alors, en comparant ce texte de l'annonce à Zacharie et celui de l'annonce à Marie, j'ai trouvé 14 points de différence, de comparaison, même de divergence, que je voudrais vous énumérer. Alors, s'il y a des gens de confession juive parmi vous, ça peut les intéresser, 14 étant le chiffre symbolique du roi David. Donc après le jeu des 7 erreurs, le jeu des 14 différences. 1. Dans le premier récit, annonce à Zacharie, le destinataire est un homme, un prêtre. Dans le deuxième récit, une jeune fille. 2. Jean-Baptiste, fils de Zacharie, appartient à une famille de prêtres, une famille sacerdotale, et pourtant, on ne verra jamais Jean-Baptiste au temple. Jésus, quant à lui, n'appartient pas à une famille de prêtres, puisqu'il est par Joseph descendant de David, et pourtant, dans l'évangile de Luc en particulier, c'est lui que l'on retrouve au temple à plusieurs reprises. 3. L'annonce à Zacharie a lieu dans le temple, c'est-à-dire chez Dieu, à proximité d'une grande foule. L'annonce à Marie, quant à elle, n'a pas d'autre cadre que l'intimité de la vie privée dans un village inconnu dont on n'avait jamais parlé jusqu'alors dans la Bible. 4. Dans notre premier récit, c'est Zacharie qui entre chez Dieu. Il entre dans son sanctuaire. Dans le deuxième récit, c'est l'ange qui entre chez Marie. C'est donc Dieu qui, par son ange, doit faire le déplacement. 5. Dans le premier récit, l'enfant doit naître d'une femme stérile et âgée, qui ne peut plus enfanter, tandis que dans le deuxième, il naît d'une vierge qui n'a pas encore enfanté. 6. Zacharie bénéficie d'une apparition, mais pas d'une salutation. Donc notre attention va être attirée, je vais le faire pour vous tout à l'heure, sur la salutation et sur son contenu. Cette salutation au cœur est développée pour Marie. Réjouis-toi, comblée de grâce. C'est un verbe grec en un seul mot. Je vous le dirai tout à l'heure. Le Seigneur est avec toi. Septième point, Zacharie est troublé et la peur tombe sur lui. Marie, elle, est profondément troublée, mais elle n'a pas peur. Au contraire, elle se pose des questions. Un verbe grec qui veut même dire calculer en soi-même. Des questions sur le sens de cette salutation. La peur fait donc place ici à une interrogation intérieure. 8. L'ange rassure Zacharie en lui annonçant que sa prière a été exaucée. Zacharie a donc demandé quelque chose. Marie, elle est rassurée, mais on ne nous dit pas qu'elle ait demandé quoi que ce soit. Elle est rassurée avec des mots différents. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Une nuance se donne donc à ses yeux. 9. Même chose, même nuance en ce qui concerne le nom de l'enfant à naître, Jean, Yohanan, le Seigneur fait grâce, et Jésus, le Seigneur sauve. 10, j'espère que vous avez le coup. 10, Jean sera grand devant le Seigneur, nous annonce l'ange, alors qu'il nous annonce que Jésus sera grand absolument, en lui-même, et sera appelé Fils du Très-Haut, un titre usuel dans l'Ancien Testament, mais qui ne se trouve dans le Nouveau Testament que chez Luc, le titre du Très-Haut. 11. Jean marchera devant pour préparer les cœurs, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, dont le prophète Malachie nous dit que Dieu l'enverra pour préparer la route à la fin des temps, alors que Jésus, lui, régnera pour toujours. 12. Ce qui arrive à Zacharie et Élisabeth, une naissance de parents âgés, s'est déjà produit. On l'a vu tout à l'heure, le frère Emmanuel Pusani nous l'a dit, c'est la question d'Abraham et de Sarah. Alors que ce qui arrive à Marie et à Joseph, ne l'oublions pas, est beaucoup plus inattendu. 13. Comment le saurai-je ? Demande Zacharie. Comment va-t-il se faire ? Demande Marie. Notons le décentrement de la question. Et enfin 14. Zacharie devient muet, comme moi tout à l'heure, parce qu'il n'a pas cru. Mais Marie, quelques versets plus loin, est proclamée heureuse par sa cousine Élisabeth pour avoir cru en la parole du Seigneur, et non pas pour être la mère du Sauveur, pour avoir cru en la parole du Seigneur. Elle se lance d'ailleurs dans une longue prière, celle du Magnificat, que nous avons entendu tout à l'heure. Du début à la fin, comme nous le voyons, Luc, de façon très habile, et j'oserais juste dire géniale, souligne ainsi le caractère inouï de la naissance de Jésus. Un autre rapprochement s'impose, ou plutôt une filiation qu'entretient ce texte de l'annonce à Marie, avec un modèle de l'Ancien Testament, celui du récit de vocation, ou plus exactement, du dialogue de vocation, tel qu'on peut le trouver par exemple dans l'Exode, dans un passage très connu, au moment de la vocation de Moïse, au chapitre 3. C'est très long, et Moïse ne cesse de dialoguer avec Dieu. Il trouve même des objections à la mission qui lui est donnée. On peut trouver aussi ce dialogue dans un livre comme celui de Jérémie, au chapitre 1. Et plus précisément encore, Luc semble puiser ici son modèle littéraire dans un récit du livre des Juges, la vocation d'un certain Gédéon, au chapitre 6 de ce livre. Alors ce n'est pas le seul exemple de ce type de récupération tel qu'on en trouve dans l'évangile de Luc. Luc est un grand récupérateur de textes de l'Ancien Testament. Nous pourrions, par exemple, comparer le cantique de Marie, on l'a fait tout à l'heure, avec le cantique d'Anne, la mère du jeune Samuel. L'enfance de Jésus chez Luc évoque d'ailleurs celle de Samuel, deux enfants consacrés au temple alors qu'ils ne sont pas fils de prêtre. Là où Matthieu cite les Écritures, quand on lit l'évangile de Matthieu, on entend souvent le même refrain. Tout ceci est arrivé pour que s'accomplisse la parole du prophète. Lui, Luc cite beaucoup moins souvent, mais sur cette écriture, pour épuiser des modèles, des moules littéraires, non pas sans conséquences théologiques. En d'autres termes, pour parler de façon un peu savante, comme Gérard Genette, là où Matthieu présente de l'intertexte, un texte qui se réfère à d'autres, Luc lui présente de l'hypertexte, un texte écrit à la manière d'un autre. Alors, je n'ai pas le temps de vous citer ce passage du livre des Juges, mais je vous demande de vous croire sur parole en vous en donnant les conclusion que je peux en tirer. Pour Marie, comme pour Gédéon, le schéma du récit est le même. Le destinataire du message est surpris dans sa vie ordinaire, chez lui, par un ange, c'est-à-dire un messager, un ange du Seigneur. L'ange salue ce personnage en disant, pour Gédéon comme pour Marie, « Le Seigneur est avec toi. » Gédéon, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Marie, « Le Seigneur est avec toi, rempli de grâce. » L'ange confie ensuite, alors le destinataire de cette salutation est profondément surpris, et Gédéon formule même une objection à la parole de l'ange. L'ange confie alors une mission au personnage, objection du personnage, qui demande comment cette mission pourra se réaliser, et le messager annonce alors un signe qui authentifiera cette mission. Ici, le signe est demandé par Gédéon lui-même, et pour Marie, le signe n'est pas autre chose que la grossesse inespérée et déjà bien avancée de sa parente, Élisabeth. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui frappe, c'est le dialogue. Le messager de Dieu n'est jamais le seul à parler. Et la réponse du destinataire ne se résume jamais à un simple oui. On pourrait donc dire que Marie, comme Gédéon, est un véritable interlocuteur de Dieu. Et ce caractère dialogal, nous le retrouvons dans les deux autres récits que j'ai déjà évoqués. Ainsi, au chapitre 3 et 4 de l'Exode, Moïse répond à l'appel de Dieu par cinq objections successives. Qui suis-je pour que tu m'appelles? Et Dieu lui répond. Deuxième objection, quel est ton nom? Comment faire confiance à quelqu'un dont on ne connaît pas le nom? Troisième objection, de toute manière, ils ne me croiront pas. Quatrième, je ne suis pas doué. Et cinquième, envoie quelqu'un d'autre, envoie qui tu voudras. Et Dieu, qui est très malin, si vous me permettez cette expression, envoie quelqu'un non pas à la place, mais en plus. Moïse et son frère Aaron. Même chose pour le prophète Jérémie, qui objecte à l'appel de Dieu sa jeunesse et son inexpérience. Donc une objection qui n'est pas forcément un signe de défiance, mais d'humilité. La plupart du temps, l'homme biblique ne croit pas Dieu sur parole. Il demande à être convaincu. Ce rapprochement attire notre attention sur le statut du texte de l'annonce à Marie. Il ne s'agit pas d'une simple annonce, mais d'un récit de vocation sous forme d'un dialogue. Marie n'est pas seulement celle qui écoute passivement pour se soumettre à une parole, elle est aussi celle qui est appelée à une mission. Elle est envoyée en mission, elle répond à cette parole d'envoi en mission, elle partage cette parole et elle l'apporte. Alors, pour appuyer cette thèse, je n'ai malheureusement pas le temps de me livrer devant vous un commentaire suivi de ce texte, comme j'en avais d'abord nourri le projet un peu téméraire et un peu fou. Mais je me contenterai de souligner deux points qui me semblent essentiels pour leur densité théologique, au début du dialogue, au tout début, et à sa fin, les premiers mots et les derniers. Les premiers mots de l'ange et les derniers mots de Marie. Voici les premiers mots de l'ange. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. » Le texte liturgique a mis une majuscule à « combler » et dit « tirer » parce qu'il s'agit d'un seul mot en grec. « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Et à cette parole, Marie fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. La tradition chrétienne que nous avons en tête pour la plupart d'entre nous, quand elle évoque cette salutation, nous fait répéter les paroles suivantes. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Or, ce ne sont pas les paroles que nous lisons dans l'Évangile de Luc. Nous lisons « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » L'ange n'appelle pas Marie, Marie. Pourquoi Marie est-elle bouleversée? Pour deux raisons. D'abord parce que personne, même un ange, ne peut entrer chez une jeune fille sans la permission de ses parents. Et c'est la raison pour laquelle une tradition apocryphe chrétienne, mais on trouve cela aussi, me semble-t-il, dans la tradition musulmane, tente de résoudre ce problème en imaginant un récit en deux temps. D'abord, l'ange, ou même simplement une simple voix, vient d'abord saluer Marie à l'extérieur, dehors, près d'un puits. Nous savons bien que le puits, c'est le seul lieu extérieur à la maison où une femme peut aller seule dans le monde judéo-palestinien du 1er siècle. Et l'Orient chrétien a conservé cette tradition, comme l'atteste par exemple l'église du Puy de Marie à Nazareth, un lieu de pèlerinage de nos amis orthodoxes. Nous connaissons bien d'ailleurs dans la Bible ce motif de la rencontre autour du puits, qui a toujours une connotation nuptiale. Rebecca est le serviteur d'Abraham, venu chercher une épouse pour lui. Rachel et Jacob, Sippora et Moïse, la Samaritaine et Jésus, car il est question de mariage aussi dans ce texte. Alors seulement, une fois que Marie et le messager ont fait connaissance, vient un deuxième épisode dans la maison. Mais il y a aussi un autre motif d'étonnement pour Marie, c'est le contenu de cette salutation. En effet, l'ange ne salue pas Marie en l'appelant par son nom, mais il lui donne un autre nom, en grec, Kekaritomene. Je n'ai jamais rencontré personne, aucune dame ou demoiselle, s'appelant Kekaritomene. Seule Marie a été appelée ainsi par l'ange. Le lectionnaire liturgique a traduit ce participe grec par « comblé de grâce » avec une majuscule et des tirets, comme pour souligner qu'il ne s'agit pas d'un simple qualificatif, mais que l'ange donne à Marie un nom nouveau. Ce motif de la nomination de Belle est un motif biblique bien connu. Changer de nom, nous le savons, c'est recevoir une mission de la part de Dieu, une mission qui transforme l'identité de celui ou celle que Dieu envoie. Ainsi, Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre, et Marie reçoit donc elle aussi une vocation au prénom initial Marie, Mariam, qui n'a rien de théophore, on ne retrouve pas le nom de Dieu dans ce nom, qui est très banal sans doute. Il y a énormément de Marie, bien dans le Nouveau Testament en compte 8 autres Maries. C'est encore pire pour Jésus, car dans la Bible, il y a 14 Jésus qui ne sont pas Jésus. Donc un prénom très banal. À ce prénom, l'ange en substitue un autre bien plus riche de sens, Kekaritomene. Donc les chrétiens pourraient nommer Marie de cette manière, ce qui permettrait de la distinguer des 8 autres Maries. Kekaritomene, c'est un participe parfait passif, pardonnez-moi l'expression technique, d'un verbe qui veut dire faire plaisir, être agréable, accorder une faveur à quelqu'un. Et ce nouveau nom signifie donc celle qui a reçu une faveur, qui l'a reçue une fois pour toutes. C'est le sens du temps employé ici en grec, le parfait. Le complément d'agent, il est sous-entendu, selon le principe du passif divin bien connu dans le monde biblique, qui permet de ne pas avoir à nommer Dieu. On pourrait donc traduire ce mot « favorisé de Dieu » avec des tirets, si cela ne faisait pas de Marie une favorite, avec les connotations péjoratives qui pourraient résonner à nos oreilles. Comblé de grâce avec des tirets, qui est le choix de la traduction liturgique, est un pis-aller acceptable. À ma connaissance, seules les traductions allemandes parviennent à rendre ce participe en un seul mot. Ça, c'est le génie de la langue allemande. Begnadete. J'ai trouvé ça dans la Neue Luther Bibel, édition 2009. Gracié, on pourrait dire en français. Gracié sonnerait plus mal. Alors je proposerais volontiers tout simplement grâce, qui est un prénom réel en français et qui permettrait de bien comprendre que ce qui est en jeu dans cette transformation du nom est important. Marie n'est pas d'abord appelée Marie, mais grâce. Imaginez, je rêve d'une traduction de cette péricope de l'Annonciation où l'ange dirait « Bonjour, grâce ». Venons-en à la salutation elle-même, qui comporte deux éléments. « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi ». Ce « réjouis-toi » fait peut-être écho à ceux adressés à la fille de Sion, on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire au peuple de Jérusalem, dans le livre de Sophonie, ou encore de Zacharie. Et puis enfin, nous trouvons une deuxième formule de salutation, « le Seigneur est avec toi ». Cette expression consacrée par la liturgie et la dévotion chrétienne n'est pas si fréquente qu'on pourrait le croire. Elle vient tout droit, nous l'avons vu, du récit de la vocation d'un homme fort, Gédéon. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ». Marie héritière d'une parole adressée au vaillant guerrier. Et ailleurs, c'est Dieu lui-même qui affirme être avec celui qui l'appelle. Il le fait pour Moïse, par exemple, ou pour Jérémie. Cette promesse par laquelle Dieu promet à celui qui l'appelle d'être avec lui est typique des récits de vocation prophétique. Et à ma connaissance, Marie est la seule femme de la Bible à entendre ces mots. Dieu l'appelle, comme il a appelé Moïse, Jérémie, Gédéon, tous ces prophètes à la voix puissante et ces vaillants guerriers, ce qui a de quoi nous surprendre. L'événement chrétien fait ainsi d'une femme l'héritière, non pas seulement des femmes de l'Ancien Testament, on l'a vu tout à l'heure, Agar, Myriam, Déborah, Dieu sait s'il y en a, mais des hommes de l'Ancien Testament. Marie, héritière non seulement des femmes, mais de tous les grands hommes d'Israël. Et mon dernier mot portera donc sur les derniers mots de Marie. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » La piété catholique, que j'assume pleinement parmi vous, a l'habitude d'interpréter cette dernière parole de Marie comme un acte d'humble soumission et d'humble confiance dans la promesse qui vient de lui être faite. Humble petite servante qui n'en vient pas d'avoir été choisie pour être la mère du grand roi des cieux. Cette lecture est légitime, elle est même vraie, mais elle est incomplète et gravement déséquilibrée. Car Marie n'est pas une servante comme une autre. Elle n'est pas une petite servante, comme on la parlera. Elle est une grande servante. Elle n'est pas la servante de n'importe qui, mais la servante du Seigneur. En grec, doulé, curieux, servante du Seigneur. Ce terme a une connotation très particulière dans la Bible, et cela mérite, selon des niveaux, que l'on s'y penche un peu précisément. Et là, je trouve que cette expression, servante du Seigneur au féminin, est ce qu'on appelle un apax biblique, c'est-à-dire que nous avons ici le seul passage de toute la Bible où ce titre est appliqué à une femme. Qui se le donne elle-même. Ailleurs, ce sont des hommes qui se disent devant Dieu, fils de ta servante. Dieu, lui, ne nomme jamais aucune femme ma servante. Et les hommes qu'il nomme mon serviteur ne sont jamais des hommes ordinaires. Il s'agit la plupart du temps de Moïse, Abraham, David ou d'Israël personnifié. Par exemple, dans les célèbres chants du serviteur, on trouve dans le prophète Isaïe. Quant à l'expression très précise, serviteur du Seigneur, doulos tou kuriou, au masculin singulier, on la trouve dans la Bible grecque des Septante, sauf trois exceptions, appliquée qu'à une seule personne, Moïse. Moïse, qui est nommé ainsi à 18 reprises. Les trois exceptions sont Josué, et qui est précisément le successeur de Moïse, deux fois. David, à deux reprises dans un verset introductif de nos psaumes, et une fois le serviteur mystérieux, évoqué dans Isaïe. Moïse est aussi le seul à être nommé doulos tou teou, serviteur de Dieu, expression reprise dans l'Apocalypse. On chante le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. Donc serviteur de Dieu et serviteur du Seigneur figurent dans l'Ancien Testament comme le titre mosaïque par excellence. Alors une question me brûle les lèvres. L'évangile de Luc présenterait-il Marie comme un nouveau Moïse ? Voir uniquement dans la parole de Marie un acte de soumission et d'humilité est tout à fait légitime, mais relève d'une interprétation indigente, si l'on oublie d'où elle tient ce privilège, d'être la servante du Seigneur. Et il me semble que sous la plume de Luc, cette expression prend le statut d'un titre, attribué à Marie par l'évangéliste. Et ce titre la rend comparable à un homme, Moïse, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, comme lui et mieux que lui. Elle est la dépositaire de la parole par laquelle Dieu se révèle à son peuple. Parole gravée sur la pierre, pour Moïse. Parole faite chair, pour Marie. Et en ce sens, on peut dire que la Marie du Nouveau Testament est véritablement la vraie sœur de Moïse. Comme Myriam, la première de toutes les Maries, sa lointaine ancêtre, qui n'est pas ignorée dans la tradition musulmane. Et à qui l'Exode n'hésite pas à donner le titre de prophétesse. Marie n'est donc pas une petite servante, elle est une grande servante, elle est la servante du Seigneur et elle seule. La parole finale de Marie, voici la servante du Seigneur, ne renvoie donc pas dans le contexte biblique simplement à l'humilité d'un fiat, comme si Marie n'avait rien à dire, mais au contraire à une mission prophétique supérieure, exclusive, comparable à celle de Moïse. Or, qui aurait spontanément l'idée d'appeler Moïse petit serviteur? Et dans ce cas, pourquoi verrions-nous de l'humilité dans le féminin quand nous ne la voyons pas d'emblée dans le masculin? l'Annonciation récite une vocation prophétique. Marie porte parole de Dieu comme Moïse. Étonnant, elle parle pourtant si peu dans le Nouveau Testament. Et pourtant ici elle parle, profitons-en. Elle parle pour dialoguer avec le messager de Dieu. Un dialogue qui débouche, comme nous l'avons vu, sur une titulature peu banale que nous risquons trop souvent d'étouffer sous notre lecture, peut-être un peu trop matérielle. Luc présente Marie comme une interlocutrice de Dieu à la manière de Moïse, de Gédéon, de Jérémie et d'autres personnages masculins qui reçoivent une mission de libération. Marie libératrice, c'est mon hypothèse. Il faudrait, pour s'en convaincre mieux encore, analyser quelques versets plus loin le cantique de Marie, le Magnificat, pétri d'un vocabulaire étonnamment guerrier sur les lèvres d'une jeune fille palestinienne du 1er siècle. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il lève les humbles. C'est une idée des gilets jaunes. Il ne se penche pas sur son humble servante, comme on dit trop souvent, mais sur l'humilité de sa servante, et pour la sortir de cette humilité. Ma lecture serait-elle influencée inconsciemment par une forme de féminisme? Ce serait mal de le connaître. Je ne le crois pas. Dans le Nouveau Testament, on parle peu de Marie, mais ici, pour une fois, elle prend la parole. Et cette parole n'est pas celle simplement d'un acquiescement, elle est, je le répète, celle d'un dialogue. Et c'est précisément ce qui fait de cette parole, d'un point de vue chrétien tout au moins, une parole de foi. Ce que Luc rapporte donc ici n'est pas une simple annonce, mais l'expérience d'une mission reçue, réfléchie, expliquée, consentie, qui résume assez bien, me semble-t-il, l'audace inouïe et subversive du message biblique tout entier. Je vous remercie.
Merci, Père Borion. Vous avez évoqué tellement de choses qui évoquent en conséquence tellement de réactions. Il y en a au moins deux ici sur cette table, le Cheikh Mojtada et moi-même. Je laisse le Cheikh Mojtada commencer. Bon, alors, une petite question et après je laisse la parole à Cheikh Mojtada. Mais je vais me contenter d'une seule question pour laisser la parole à tout le monde. Vous avez parlé de la question de l'objection, c'est très intéressant parce que dans le Coran, il y a aussi question de questionnement où Marie pose la question à l'archange Gabriel et on pourrait le comprendre comme une objection. Comment on pourrait avoir un enfant tant aucun être charnel ne m'a touché? Et c'est une forme d'objection en fait. Et après elle dit oui, un grand oui, mais en toute liberté, c'est qu'elle choisit librement d'adhérer et de faire foi à la parole de Dieu. Mais ma question concerne en fait la visitation. Pourriez-vous me dire un petit mot sur la visitation à Elisabeth? Il y avait deux fœtus en même temps. S'est-il passé quelque chose de froid?
C'est difficile de dire un seul mot sur la visitation. Je sais.
Alors, deux fœtus.
Dans la tradition qui la mienne, la visitation n'est pas seulement la rencontre de deux femmes, mais la rencontre de deux enfants. Parce que le premier à réagir n'est pas la femme, Elisabeth, mais l'enfant. Le fœtus, Jean-Baptiste. L'enfant tressaillit en elle. Donc le premier à prendre la parole, c'est celui qu'on ne voit pas. Il y a un modèle hétérotestamentaire de ce récit de la visitation que l'on trouve dans le livre de Samuel, car Élisabeth dit à Marie les mêmes mots que David dit devant Dieu quand l'arche que l'on ramène du pays des Philistins entre à Jérusalem. Comment ai-je ce bonheur que l'arche d'Alliance vienne chez moi? C'est ce qui a fait de Marie, ce qui a permis de donner à Marie l'un des parmi les titres qu'on lui attribue, celui de l'Arche d'Alliance. De même que l'Arche est le lieu où on reconnaît la présence de Dieu, Marie, à son tour, et le Dieu, mais pas simplement le lieu, c'est un lieu qui parle, une interlocutrice, où la présence de Dieu se manifeste à son tour.
Merci beaucoup. Vous avez parlé de combler de grâce, c'est magnifique, parce que l'un des titres attribués à Marie au Islam, c'est Al-Mahrouma, ça veut dire combler de miséricorde par essence. Autrement dit, qui est les réceptacles de la grâce. Et donc les deux sont couplés dans ce titre. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Cheikh Mojtada.
C'est que vous avez remarqué, c'est ça. Je voulais remercier énormément pour vraiment cette intervention très très riche. Et, vois que il y a cette idée de la grâce, ce prénom, nouveau prénom, qu'on peut dire, qu'on le trouve dans les même les versets de Sourate chapitre 3, Sourate Al-Imran, et dans les versets qui donnent cette explication pour donner ce sens de la grâce, surtout quand vous parlez aussi de l'héritier. L'héritier aussi, quand on parle de la généalogie filiale de Marie, ici on parle pareil de Al-Imran, Sourate Al-Imran. Vous savez, on appelle la Sourate chapitre Al-Imran pour la raison de Ya-Orta, c'est-à-dire Bnata Imran. Et aussi on parle de Orta Harun. Orta Harun, c'est la sœur de Harun. Pourquoi Harun? Aaron, c'est pour dire que elle est, dans certaines citations musulmanes, que ce soit dans les deux écoles chiites et sunnites, Aaron ici, elle était une des filles, la mère de Marie était une des filles de Aaron. Et qui parle de cette question de la généalogie importante, ce qui rejoint aussi à la question que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, la question de l'infaillibilité. Ça rejoint à ce que vous venez de dire, la question de la grande servante. Une servante, de tout, ça veut dire, et même le verset du Coran dit laisa dhakar kal untha, ça veut dire l'homme n'est pas la femme et la, n'est pas comme l'homme. Dans la tradition, c'était pour les gens, ils pensaient, et même la mère de Marie a pensé que ce n'est pas pareil. Mais en fin de compte, on a vu que Marie était plus qu'un dhakar. C'est-à-dire qu'elle est devenue plus qu'une anon et elle était vraiment la grande servante, comme vous venez de dire. Car ici, le verset dans le verset 36 dit puisque, puis lorsque elles ont eu accouché, et il dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux que ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie, comme vous venez de dire, mais après on voit que dans l'ordre de ce verset, on voit que dans Surat Al-Imran, chapitre 3, dit à Dieu, parle, certes Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Et puis, juste après, il dit, en tant que descendante les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Et puis, il parle directement de l'histoire de la naissance de Marie. Et quand il parle de Qalat Imra'atu Imran, il commence à parler la dame de Imran, c'est-à-dire la mère de Marie, quand la femme de Imran dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre jusqu'à la fin du verset. Ça montre que cette question de la grâce comme prénom, et la généalogie de cette descendance et surtout la grande servante dans cette généalogie des prophètes, c'est-à-dire sa place est une place d'une comme prophète, on peut dire. Merci.
Je retiens surtout Marie, sœur de Aaron, puisqu'il enracine complètement dans la tradition de Moïse.